laïque, qu'est-ce que la laïcité ? Avec Laurent Bouvet et Philippe Reynaud. Les sociétés occidentales sont sécularisées, ce qui veut dire en clair qu'elles sont toutes émancipées de la contrainte religieuse et passées de l'hétéronomie, la loi vient d'en haut, au régime de l'autonomie, la loi est produite par les hommes. Comme l'a écrit Ferdinand Buisson dans son dictionnaire de pédagogie, l'état laïque, c'est-à-dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos mœurs de manière à n'en plus sortir. Et cela vaut pour l'ensemble des démocraties. Mais ce que Buisson ne pouvait pas prévoir, c'est que la forme française de la sécularisation allait provoquer des crispations et même un tollé dans les pays aussi émancipé de toute contrainte théologique que le nôtre. L'interdiction du port de signes religieux ostentatoires a fait scandale aussi bien aux États-Unis que dans les autres pays européens. Comment se fait-il que la France, patrie des droits de l'homme et berceau de la démocratie, pratique cette forme indigne de discrimination ? S'est exclamé un journaliste de Gazeta, le journal polonais, issu de la dissidence. Ken Livingstone, alors maire de Londres, a dit qu'il s'agissait là du texte législatif le plus réactionnaire qu'un parlement ait eu à voter en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le New York Times mène depuis lors campagne contre la dérive liberticide de l'autre patrie de la Révolution. Voilà donc la France laïque mise au banc des pays laïques. Il y a là un paradoxe que vont m'aider à élucider Laurent Bouvet et Philippe Reynaud, qui publient l'un et l'autre un ouvrage sur ce thème. Celui de Laurent Bouvet s'intitule « La nouvelle question laïque » et celui de Philippe Reynaud « La laïcité, histoire d'une singularité française ». Arrêtons-nous à ce mot. D'où vient, Philippe Reynaud, que la sortie française de la religion ait pris en France une forme à nulle autre pareille ?
Je crois que pour comprendre ce point, il faut remonter aux origines de la sécularisation ou de la naissance des sociétés laïques. Et cette origine se situe, me semble-t-il, dans la période des guerres de religion qui ont traversé et cruellement divisé l'Europe au XVIe siècle, après la Réforme. Ce qui est nouveau à ce moment-là, c'est le fait que en Occident, l'Église catholique n'a pas les moyens de réprimer l'hérésie, que celle-ci, prétendue hérésie, se répand sur toute l'Europe, et que, du coup, on a dans certains pays, comme l'Angleterre ou la France notamment, un conflit inexpiable entre deux interprétations du christianisme qui prétendent chacune à la vérité absolue, qui prétendent au monopole du salut, enfin dans une certaine mesure, chez les catholiques en tout cas indiscutablement. Et c'est ça qui va faire apparaître en France, au moment dans la période qui est intense des guerres de religion, l'idée qu'il faudrait arriver, sans mettre en cause le caractère de monarchie chrétienne de la France, arriver à une situation où on pourrait être à la fois, comme dira le chancelier Michel de l'Hospital, je crois, être bon français sans être bon chrétien. Alors la voie française, c'est la voie qui va privilégier l'autorité de l'État pour régler la question religieuse, et qui se fait dans le contexte d'une hégémonie catholique continuée, alors que la voie qui va être suivie dans le monde protestant, c'est la voie qui naît du pluralisme des sectes ou des églises protestantes, qui pendant longtemps d'ailleurs est assez intolérante à l'égard de l'Église catholique, mais disons, je crois qu'il y a deux lignes, l'une dans laquelle La tolérance se diffuse par en bas, depuis la pluralité des sociétés religieuses et des églises, et s'étend progressivement à la société entière. Alors qu'en France, tout part de l'État. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que l'édit de Nantes, la grande réalisation d'Henri IV, coïncide aussi avec la stabilisation et l'extension de la monarchie absolue. Et je pense que c'est ça le point de départ. Et le second point, c'est que nous aurons ensuite en France une pensée des Lumières qui mûrit dans une France qui reste catholique, où d'ailleurs la tolérance a été annulée par Louis XIV. Et du coup, le conflit entre les Lumières et la religion est beaucoup plus violent en France qu'il ne l'est dans le monde anglophone ou dans le monde germanophone. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les Français étaient nécessairement plus anti-religieux, plus athées, etc. que les autres. Ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je pense qu'on a au point de départ cette configuration dans laquelle la laïcité française passera par l'autorité de l'État et par la mise sur le même plan des droits des incroyants et des droits des croyants. Ensuite, quand on prend la formation de la laïcité sous sa forme, disons, définitive, celle de la loi de 1905, on nous dit aujourd'hui que la loi de 1905, c'est très bien parce que c'est un texte libéral qui fait qu'on a la liberté de croire et de ne pas croire, etc. Mais c'est un texte en effet libéral, mais qui est voté, adopté et qui triomphe à l'issue d'un long combat dans lequel l'Église catholique a commencé par être battue. Est battue à plate couture, elle a tout perdu, disons que la République, comme Rome chez Virgile, n'a pu être indulgente pour les vaincus, pour ceux qui se soumettaient, que parce qu'elle avait commencé par dompter les superbes. Alors c'est ça l'histoire sous-jacente, je crois, de la laïcité.
Laurent Bouvet.
Oui, sur ce point du libéralisme de 1905, c'est un point important qui relie le sujet à ce que vous avez dit dans votre introduction, Alain Finkielkraut, parce que aujourd'hui, un certain nombre de défenseurs de la laïcité qui expliquent que, comme l'a dit Aristide Briand, c'est une loi libérale, à l'époque, quand il a présenté le projet de loi qu'avait élaboré la commission avant le vote de la loi, enfin la commission de la Chambre des députés, eh bien, il l'utilise aujourd'hui pour dire que cette laïcité devrait se normaliser. C'est-à-dire qu'elle devrait rentrer dans le régime de tolérance et du pluralisme, ainsi que l'a défini ou expliqué à l'instant Philippe Reynaud. Et donc qu'elle devrait devenir une nouvelle forme de ce libéralisme général qu'on appelle, je sais que le terme est contestable, mais tant pis, je l'emploie, anglo-saxon, d'origine anglo-saxon, anglo-américaine, comme on l'a dit à l'instant. Et donc, ils confondent le libéralisme et les intentions des pères fondateurs, parce que c'est le même mot utilisé, et celui d'aujourd'hui. Et ça, c'est un problème important dans le débat sur la laïcité, parce que ça fausse complètement les références.
Oui, et c'est vrai d'ailleurs, c'est le deuxième paradoxe, ce qui va de pair avec celui que j'ai énoncé en commençant. La première querelle de la laïcité mettait aux prises des adversaires qui ne parlaient pas le même langage. Il y en a d'un côté l'Église catholique, les cléricaux, disaient leurs adversaires, Monseigneur Frépel, ne pas parler de Dieu à l'enfant pendant 7 ans alors qu'on l'instruit 6 heures par jour, c'est lui faire accroire positivement que Dieu n'existe pas et qu'on a nul besoin de lui. Réponse de Ferdinand Buisson, on devient clérical à l'instant précis où l'on incline sa raison et sa conscience sous une autorité extérieure qui s'arroge et à qui on reconnaît un caractère divin. Tout est clair. Maintenant, le débat, c'est laïque contre laïque. C'est-à-dire la laïcité républicaine dite intransigeante et une laïcité apaisée, une laïcité ouverte, dont se réclament en France aussi les adversaires, notamment de la loi sur les signes religieux. Et ils invoquent d'ailleurs la liberté des modernes, la jouissance paisible de l'indépendance privée. comme disait Benjamin Constant, puisque c'est ce que l'idée force qui doit guider l'administration, c'est que son rôle s'arrête là où commence ce qui est de l'ordre du privé. Ça, c'est David Kessler qui le disait au moment de la première querelle sur le foulard islamique, et même les défenseurs de la présence du voile à l'école, quand ils sont musulmans, invoquent cette idée. Nous ne revendiquons aucun privilège, nous voulons que l'école soit à l'image de la société telle qu'elle, disent-ils. Autrement dit, ben voilà, nous voulons le pluralisme à l'école, le pluralisme à l'école comme le pluralisme social. Alors, où en est cette querelle de laïcité, laïque contre laïque, qui est en passe de l'emporter, à votre avis ? Philippe Reynaud.
Bon, ce que je dirais d'abord, c'est que prenons au sérieux la formule de Benjamin Constant que vous venez de rappeler, la jouissance tranquille de l'indépendance privée. Ce que je dirais, du point de vue d'un laïc qui passerait peut-être pour intransigeant, c'est qu'il n'est pas du tout certain que dans certains quartiers, les individus jouissent tranquillement de leur indépendance privée. C'est-à-dire que ce qui peut entraver la liberté de chacun, ça n'est pas simplement l'action de l'État, ça peut être aussi l'action de courants ou d'organisations qui agissent dans la société civile elle-même. Et au départ, je crois qu'on a tort de réduire la laïcité française à la séparation de l'Église et de l'État, qui était quand même un moyen... pour, comme le disait Jules Ferry, qui lui-même d'ailleurs est antérieur à la séparation, mais la laïcité, c'était un programme qui visait à empêcher une partie de la société religieuse à dominer le reste de la société. Et ça ne passe pas nécessairement par la frontière entre les institutions publiques et les institutions privées. Donc ce que je pense, pour ma part, c'est que les extensions dont on a parlé, notamment la loi de 2004, sont parfaitement fidèles à l'esprit de la législation française, l'esprit libéral et républicain de la législation française. Bon, alors, simplement, ce qu'on voit très bien, c'est que, étant donné qu'historiquement, être anti-laïque, c'est être contre la... c'est être pour le pouvoir social de la religion, les prétendus laïcs ouverts, etc., ne vont pas dire qu'ils sont anti-laïques. Donc, je crois qu'il y a simplement le fait que, après tout, comme disait un moraliste français, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Et je crois qu'à chez un certain nombre, pas chez tous, mais chez un certain nombre de tenants de la laïcité ouverte, on a simplement, je crois, de l'hypocrisie. Mais par ailleurs, ce que je dirais aussi, c'est que là je suis peut-être en désaccord avec mon ami Laurent Bouvet, il y a quand même aussi une certaine unité du libéralisme qui fait que je ne pense pas que qu'on puisse poser une frontière très nette entre le libéralisme politique républicain et celui d'aujourd'hui. Je crois que les aspirations à la fois individualistes, communautaires, etc., qu'on désigne sous le nom de multiculturalisme, traversent toutes les sociétés contemporaines. Et qu'on n'a pas besoin de les importer pour qu'elles apparaissent en France. C'est-à-dire que ce débat n'est pas un débat entre Français et Américains. Par exemple, c'est un débat franco-français aujourd'hui.
Ah oui, c'est un débat franco-français aussi, mais, c'est ce que je disais.
Mais dans lequel je dirais simplement qu'il faut... Il faut peut-être pas se attacher trop d'importance à l'auto-affirmation laïque de certains.
Ah bon, alors Laurent Bouvet.
Oui, alors, il y a deux choses. La première, c'est que, bien évidemment, et là je suis tout à fait d'accord, les aspirations à une forme de liberté à la fois individualiste et multiculturelle sont universelles. Elles sont, quand même, si on regarde les choses de près, très favorisées par des représentations culturelles qui sont très largement dominées dans le monde tel qu'il est aujourd'hui par l'industrie culturelle américaine, à travers les films, la musique, les séries, etc. Et on a plutôt l'idée que la liberté, c'est le slogan de McDonald's, venez comme vous êtes, c'est mon choix.
Oui.
Je fais ce que je veux. Et voilà. Donc ça, c'est un premier point. Donc on a effectivement plutôt une tendance très lourde, mais on trouve aussi, et c'est le l'universalisme dans toute son extension, si l'on veut, on trouve aussi dans de très nombreux pays, et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas simplement c'est une singularité française, ça c'est sûr, la laïcité, mais l'aspiration à la manière d'être protégé, non pas seulement de l'État par rapport à sa croyance, mais aussi de ses co-religionnaires dans sa manière de croire, qui est aussi une aspiration individualiste, de fait, c'est aussi une aspiration qu'on trouve dans de très nombreuses sociétés, pas uniquement en France, et vous avez beaucoup de gens, quand on leur parle dans des colloques à l'étranger, etc., sur ces sujets, viennent vous voir en disant « mais votre modèle, c'est le meilleur modèle possible aujourd'hui à l'âge identitaire pour nous protéger du poids que font peser, on parlait de certains quartiers tout à l'heure, du poids que font peser les co-religionnaires, et c'est pas limité à l'islam, hein, sur notre propre manière de vouloir vivre notre religion. » Donc tout cela est extrêmement complexe et lie des dimensions assez différentes. Donc la laïcité n'est pas seulement un modèle français, mais peut-être aussi prise en compte comme une forme universelle d'une manière de se protéger de l'immixtion de la religion dans sa propre vie, qu'on soit croyant ou non.
Alors, en effet, on peut invoquer l'argument libéral pour justifier un certain nombre de lois. Et d'ailleurs, dans le manifeste que j'avais signé et rédigé en 1989 avec Elisabeth de Badinter, Elisabeth de Fontenay, Régis Debray et Catherine Kinsler, nous avancions cet argument. Tolérer le foulard islamique, ce n'est pas accueillir un être libre, en l'occurrence une jeune fille, c'est ouvrir la porte à ceux qui ont décidé de lui faire plier les chines. Bien, et ça, vous l'avez dit l'un et l'autre. Mais en même temps, force est de constater que, pour le coup, nous autres Français, nous sommes renvoyés à nous-mêmes.
Bien sûr.
Si vous voulez, c'est-à-dire, voilà. Et nous ne pouvons pas dire que nous allons exporter notre modèle partout. Nous avons plutôt envie de dire aux Américains ou aux autres, pensez ce que vous voulez, réjouissez-vous de votre multiculturalisme, mais laissez-nous vivre. Donc, Laurent Bouvet, oui, quand vous dénoncez l'appropriation identitaire à plusieurs reprises dans votre livre de la laïcité, on a envie de vous répondre, c'est une appropriation contrainte. Voilà, c'est une particularité et nous sommes amenés à l'assumer en tant que telle. Cela fait partie de nos mœurs et nos mœurs doivent être protégées.
Oui. Alors, Laurent Bouvet. Attention, parce que quand je parle d'appropriation ou d'instrumentalisation de la laïcité, je le fais à propos, en particulier, du Front National, qui, depuis maintenant une dizaine d'années, a fait de la laïcité un des termes de son combat, avec une Marine Le Pen expliquant que cela faisait partie précisément de notre civilisation, de notre... Voilà. Or, le Front National n'était pas un parti laïque et défendant la laïcité jusqu'à ce que Marine Le Pen en prenne la direction. Et au sein du Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, il y a encore énormément de gens qui ne pensent pas du bien de la laïcité. Il y avait l'héritage de ce que... l'héritage de cette extrême droite, de l'Action française, qui avait inventé le mot laïcard quand même. Donc on est un peu à front renversé, c'est ce que j'essaye de dire. Or cette idée d'une laïcité qui viendrait du fond des âges, du christianisme, qui prendrait sa source dans Matthieu 22, le denier de César, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, qui aurait été construit par le catholicisme français. Alors c'est l'histoire que racontent effectivement ceux qui veulent en faire un outil de lutte pour la civilisation française, européenne, contre l'islam en particulier. C'est aussi ce que raconte quelqu'un comme l'historien Jean Bobéro, qui fait l'histoire de la laïcité à partir du point de vue minoritaire, protestant en particulier, lorsqu'il dénonce le gallicanisme, le jacobinisme, le bonapartisme, le radicalisme, comme des tentatives toujours de museler la liberté, d'opprimer les minorités, etc. Il y a, et chez des catholiques authentique, c'est une contestation de cette idée, effectivement. Et s'il y a bien sûr une continuité avec la rupture entre le théologique et le politique dans l'Occident chrétien, qui permet la sécularisation dont vous avez parlé au début, et notamment sa forme française, il y a aussi une rupture profonde et une opposition qu'a rappelé Philippe Reynaud, un combat des deux Frances, et la France républicaine et laïque l'a emporté dans ce combat, a soumis l'Église catholique dans cette période très particulière autour de 1900. Donc il faut bien prendre en compte l'ensemble des éléments, et quand je parle effectivement d'utilisation, d'appropriation de la laïcité, c'est une manière de défendre une identité, mais c'est une manière de défendre qu'une partie de notre identité. Donc moi, j'essaie de voir l'ensemble de notre spécificité française et de son caractère, je le répète encore, possiblement universel chez beaucoup, beaucoup de gens partout en Europe au moins et dans le monde qui pensent que la laïcité à la française, c'est aujourd'hui une très bonne manière de vivre sa croyance, notamment par rapport à ses coreligionnaires.
Alors, Philippe Reynaud, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais il faut que je m'abstienne provisoirement. Philippe Reynaud.
Il y a deux choses qui viennent d'être évoquées. D'un côté, il y a la question très complexe de la continuité de la rupture entre l'Occident chrétien et la naissance de la sécularisation en général et de la laïcité en particulier. Bon, pour simplifier, je pense qu'il y a une histoire reconstruite chez certains auteurs et certains penseurs chrétiens aujourd'hui, et catholiques notamment, qui se font plaisir en disant que tout vient du fait qu'il faut rendre à César ce qui est à César, etc. Ce qui est en tout cas certain, c'est que cette nouvelle a mis longtemps à arriver dans l'Église catholique, et que tout au long du 19e, c'est pas la thèse qu'elle a défendue. C'est-à-dire que si l'Église catholique avait toujours été laïque, je crois que ça se saurait. Et c'est pas la peine de trop gloser sur ce point. Ce qui est en revanche sous-jacent dans cette question, c'est le fait de savoir ce qu'on va faire du passé chrétien de l'Europe, avec lequel, à mon avis, on a tort de vouloir rompre, s'opposer, le dénier, etc. Tout ça est un peu faux. Mais l'autre problème, plus prégnant probablement, c'est celui de savoir dans quelle mesure la laïcité française peut avoir une signification universelle. Bon, j'écris un livre qui s'appelle « Histoire d'une singularité française » pour dire que c'est la forme française d'un processus universel, mais ça ne veut pas dire que cette forme ne peut pas présenter d'intérêt ailleurs. C'est-à-dire, je crois, si on fait une sorte de gradient entre le multiculturalisme extrême qu'on connaît dans certains courants américains et les solutions françaises, je pense que le débat est présent dans toutes les sociétés démocratiques, et à beaucoup d'égards, je pense que les solutions françaises peuvent être non pas exportées, mais tout simplement retrouvées dans le contexte de certains pays. Et très souvent, d'ailleurs, sur ces questions, ce dont on s'aperçoit, c'est que la France est simplement un peu en avance et non pas en retard sur d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a, je pense que les expériences que sont en train de vivre les sociétés européennes et occidentales vont conduire à regarder avec plus d'intérêt la façon dont on traite ces questions. Mais je crois qu'il faut pas figer le débat.
Non, il faut pas figer le débat, vous avez raison. J'en reste une seconde quand même à ce mot, à cette question du caractère identitaire de la laïcité. Vous connaissez l'un et l'autre le livre de Claude Habib, Galanterie française. Elle s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'interdiction du voile à l'école s'est faite en France. Et les commentateurs, dit-elle, ont souligné que la proscription des autres symboles religieux, la croix et la kippa, avait un caractère de fausse symétrie. C'est bien le voile qui était visé lui seul. Donc la laïcité peut être invoquée, mais l'était-il comme symbole religieux ? Peut-être, mais il heurtait une tradition, elle appelle la tradition galante, qui présuppose une visibilité du féminin, et plus précisément une visibilité heureuse. Le voile, c'est rappel qu'il existe un autre règlement possible de la coexistence des sexes, et de ce règlement-là, la France ne veut pas. C'est intéressant, parce que Philippe Reynaud publie un livre dont le sous-titre est « Histoire d'une singularité française », et je pense à un autre ouvrage que vous connaissez, « Les mots des femmes » de Mona Ozouf, l'essai qui termine cet ouvrage, c'est un essai sur la singularité française. La singularité française du féminisme. C'est-à-dire, sur cette question-là, par quelques biais qu'on la prenne, on est un peu renvoyé à nous-mêmes. Alors peut-être que dans un deuxième temps, d'autres y viendront. Les Américains n'en prennent pas le chemin. On le voit aujourd'hui, puisque le voile islamique est en train de devenir, sur les campus et même au-delà, un symbole du féminisme. Mmh. Un symbole du féminisme. C'est à travers le voile que... Bon, mais peut-être que les choses vont changer, peut-être que les choses vont changer ailleurs. Mais là, quand même, il y a une spécificité française que même Macron a reconnu, puisque il a dit le voile dans les émissions sur BFM, je crois, avec Bourdin et Plenel. Et Plenel, oui. Le voile n'est pas conforme à la civilité de notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes. Donc, c'est quand même peut-être une part de notre civilisation, le mot d'identité, qu'il s'agit aussi là de défendre.
Mais bien évidemment, c'est et j'essaie précisément à la fin de mon livre de justement de contrer l'argument de certains, notamment des catholiques en l'occurrence, qui expliquent que la laïcité c'est une forme tout à fait si vous voulez de l'époque, du matérialisme, de l'abandon de l'Occident, de sa grandeur, de sa civilisation, etc. Or, il y a contenu dans la laïcité, au-delà du principe, des principes juridiques qui la caractérisent, il y a une politique de civilisation qui est encapsulée, si vous voulez, dans la manière dont on la conçoit. Mais encore une fois, le combat d'un féminisme universaliste, émancipateur, est contre un féministe essentialiste, celui précisément qui conduit à penser que l'aboutissement de la liberté, de l'émancipation de la femme, c'est de mettre le voile pour des musulmanes. Eh bien, ce combat a lieu, y compris dans les sociétés arabo-musulmanes. Et vous avez ces femmes dans tous les pays musulmans qui luttent parfois au prix de leur liberté, voire peut-être même de leur vie dans certains cas, pour justement pouvoir ne pas porter le voile et pouvoir avoir des rapports égaux au sens ne serait-ce que de la galanterie mais de manière générale avec les hommes. Donc si vous voulez on est au cœur du sujet, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans une situation. Pourquoi on a l'impression d'être sur la défensive? Parce que nous sommes dans un monde, ce monde de la mondialisation, c'est une évidence, enfin c'est une banalité de le dire, dont les représentations culturelles ne sont pas ni dictées évidemment, ni dominées, ni même, et de moins en moins sans doute, influencées par la France. Voilà, et donc par ceux qui pensent comme nous pensons historiquement en France de manière majoritaire. Et de plus en plus en France, et c'est là le point, il me semble, essentiel de ce débat sur la laïcité, il y a des gens qui pensent à rebours de notre singularité française. Voilà.
Philippe Reynaud.
Oui, c'est bien dommage. Mais la laïcité ne va pas restaurer la suprématie du Royaume de France en
non.
Europe.
Non, ça c'est...
On peut le déplorer, mais je crois qu'il faut s'y résigner.
Même si on le voulait.
Et d'ailleurs, nous ne le voulons pas.
Et voilà.
Nous ne le souhaitons pas. Mais il me semble, Alain, vous avez très bien posé le problème, mais en rappelant ce texte de Claude Habib, qui nous dit bien qu'il y a une part de l'hostilité des Français ou de la France à l'égard des comportements islamiques les plus ostentatoires, comme on dit, qui n'est pas directement liée à la laïcité, c'est-à-dire que les signes religieux sont plus ou moins... suscite une hostilité plus ou moins grande. Celui-là en produit une qui est liée au fait qu'il a une signification particulière. Mais on a pu régler le problème qu'en prenant une loi générale qui ne pouvait pas être faite au nom de la restauration de la tradition française de la galanterie, dont il faut d'ailleurs se rappeler qu'elle est bien antérieure à la Révolution et qu'elle n'est pas totalement liée à un imaginaire de l'égalité. Oui. C'est un imaginaire de la réciprocité, des relations, de la civilité, de la civilisation. Mais donc, je crois qu'il y a des histoires un peu, des temporalités un peu distinctes qu'il faut réunir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une certaine cohérence de la civilisation française et une certaine hostilité à cette cohérence. Oui.
Mais je voudrais en venir justement à la véritable nature de cette nouvelle querelle de la laïcité. Elle oppose des laïcs à d'autres laïcs, mais pourquoi? Alors avant cela, je vous lirai une réflexion de Kundera dans les Testaments trahis, parce qu'elle est très belle, et elle s'applique sans doute aussi à notre situation et aux problèmes identitaires dont nous parlions. Durant les temps modernes, l'incroyance cessait d'être défiante et provocatrice, et de son côté, la croyance perdait sa certitude missionnaire ou intolérante de jadis. Le choc du stalinisme a joué le rôle décisif dans cette évolution. En tentant de gommer toute la mémoire chrétienne, il rendit clair, brutalement, que nous tous, croyants ou incroyants, blasphémateurs ou dévots, appartenant à la même culture, enracinée dans le passé chrétien, sans lequel nous ne serions que combre sans substance, résonneur sans vocabulaire, apatride spirituelle. Et vraiment, il n'y a pas, si vous voulez, athée plus résolu que Kundera. Et je dis cela parce qu'il me semble que nous vivons la même chose dans la mesure où, effectivement, nous sommes confrontés en France à une nouvelle population, à une démographie changeante, et je ne dirais pas seulement l'islam, je dirais bien plutôt la réislamisation de l'islam.
Oui, tout à fait.
Ce qui est effectivement le phénomène contemporain. Une réislamisation d'ailleurs assez récente. C'est-à-dire, oui, la marche des beurs, c'était pas ça. Non. Simplement, le mot beurre, oui, est aujourd'hui récusé par ceux auxquels, oui, il s'applique, il le juge méprisant, et il parle même à propos de ce mot, comme l'a dit Gilles Kepel, d'un complot sioniste fomenté, oui, par SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France. Donc il y a une réislamisation de l'islam qui nous renvoie à nous-mêmes en tant que laïcs, mais plus encore, qui nous renvoie à notre propre civilisation, et donc recrée une espèce de continuité, alors même qu'en France, la laïcité, plus qu'ailleurs, on l'a dit, est née d'un combat et d'une rupture. Oui. Mais voilà, je voudrais savoir ce que vous en pensez et que faire face à cette nouvelle situation. Alors, Laurent Bouvet.
Dans le cadre de la question laïque traditionnelle, qui s'oppose à la nouvelle question laïque qui se pose aujourd'hui, les deux France, la France qui croit et la France qui ne croit pas, celle qui croyait, celle qui ne croyait pas, comme dans le poème, s'opposer dans un cadre culturel commun. Et l'émancipation, la rupture, la critique se faisaient à partir de ce cadre culturel commun. La transformation qu'on vit aujourd'hui, et qui est une transformation extrêmement rapide, puisque c'est depuis une trentaine d'années, c'est l'installation en France, avec une population qui est devenue nombreuse, mais une population, et ça j'y insiste, française, parce que nous n'avons pas ce choc de l'immigration comme peuvent le vivre d'autres pays européens. Nous, notre population était installée depuis une quarantaine d'années, même un peu plus pour certains, mais enfin voilà. Donc c'est une nouvelle situation, et une nouvelle question laïque se pose par rapport à une religion, l'islam, qui n'a pas évidemment la tradition chrétienne.
Mais problème se pose surtout aussi du fait de l'immigration,
oui, alors,
qui suit,
alors,
l'installation de la,
alors,
population.
L'immigration qui suit, et surtout ce que vous avez dit sur la réislamisation. Moi, je cite notamment Mohamed Cherkaoui, qui est un sociologue qui a écrit un livre très, très intéressant sur l'islamisation de l'islam, qui est un phénomène, là aussi, qui dépasse la France. C'est-à-dire que l'installation d'une nouvelle religion de l'islam qui n'avait été présente en France que dans le cadre de l'Empire, et ça aussi c'est une l'Empire colonial, ça aussi c'est une des questions essentielles, puisqu'il n'était pas présent évidemment en 1905 sur le sol métropolitain, d'où un certain nombre de questions, notamment sur la construction des édifices. 2500 mosquées en 30 ans ont été construites en France. C'est une population, et c'est concomitant, si vous voulez, la l'installation et la visibilité, on parlait du voile tout à l'heure, depuis une trentaine d'années, de l'islam dans le paysage français, c'est concomitant de l'islamisation depuis notamment la révolution iranienne, la réislamisation de l'islam, c'est-à-dire qu'une partie des musulmans, une partie de l'islam est devenue plus fondamentaliste, plus radical, plus peu importe les termes qu'on emploie, on utilisait il y a 30 ans intégriste, c'est-à-dire c'est réapproprier de manière identitaire, dont on parlait tout à l'heure, de manière identitaire la religion, parce que après l'échec des nationalismes arabes, après un certain nombre d'évolutions, il y a eu des mouvements, aussi bien dans l'islam chiite que sunnite, hein, les spécialistes expliquent très bien ça, qui se réapproprient la religion pour montrer qu'il y a quelque chose d'un combat contre l'Occident, d'un choc de civilisation, etc. Et on le voit notamment, par exemple, dans c'est Florence Berger-Blackler qui a fait ce très bon livre sur l'invention du halal. On voit que cette visibilité, cette réappropriation identitaire prend de nombreux chemins. Les vêtements, le voile, le halal, un certain nombre de manifestations dans l'espace public pour montrer qu'on est musulman. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. 30 ans à l'échelle de notre pays, évidemment, ce n'est rien. Donc on est dans cette situation et c'est cette situation qu'on doit prendre en compte aujourd'hui absolument quand on parle de cette question.
Oui, d'ailleurs, El Karoui dit la même chose. Hein.
Oui, mais là-dessus, on sera tout à fait d'accord avec la question El Karoui.
Il pointe la halalisation de l'islam aujourd'hui. Alors,
le livre de Florence Berger-Blackler
et Philippe Reynaud, est-ce que... comment faire face?
Si je peux me permettre d'ajouter un point... Laurent Bouvet a parlé du terreau culturel commun qui était celui sur lequel s'est construit la laïcité. Ce terreau, c'est ce que je me suis permis en reprenant à d'autres usages une formule de Morin, d'Edgar Morin, c'est ce que j'ai appelé la catholaïcité pour insister sur le fait qu'il y avait beaucoup de choses en commun qui n'empêchaient pas un désaccord fondamental, c'est-à-dire que, pour simplifier, les laïcs et les catholiques n'avaient pas du tout la même conception de la nature, mais ils croyaient les uns et les autres à l'existence d'une morale naturelle et d'un certain nombre
de choses. Vous avez des très beaux passages d'ailleurs à ce propos. Vous citez Péguy et aussi Pagnol.
Oui.
Les quelques pages sur Pagnol sont très très intéressantes.
Merci beaucoup. Mais je crois que ce monde s'est peu à peu dissous du fait du travail de la modernité qui fait qu'aujourd'hui la distance, me semble-t-il, entre ceux qui restent de catholiques en France et les nouvelles générations laïques, entre guillemets, est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était autrefois. Nous n'avons pas de consensus sur les questions morales. Ça nous entraîne très loin, mais je crois que l'existence de ce terreau culturel commun faisait aussi qu'il y avait quelque chose qui unifiait les deux France, c'est le fait qu'elles étaient tranquillement assimilationnistes. Je me souviens d'ailleurs très bien, ça devait être au début des années 80, d'un moment où à peu près simultanément le Grand Orient et la Conférence des évêques avaient publié deux textes convergents sur un point, c'est qu'il fallait en finir avec le mythe de l'assimilation. Je ne me souviens pas de la date exacte de ça, mais c'est Or, ce qui s'est produit, c'est que cette évolution s'est produit justement au moment où apparaît ce qu'on peut appeler sans esprit polémique la question musulmane, c'est-à-dire la question d'une religion qui, comme vous l'avez dit, est en voie de réislamisation, qui durcit ses positions, et dont d'ailleurs le durcissement universel, à mon avis, doit être vu en grande partie comme une réaction, au sens le plus profond, contre l'universalisation de l'individualisme libéral. Il y a un côté proprement réactionnaire de tout cela, et que nous prenons de plein fouet dans un pays où les ressorts traditionnels ont été un peu affaiblis.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, en effet, car ça me rappelle ce rapport pour une société inclusive de Thierry Thuot, qui a été remis à Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, en 2013. Et je crois que Thierry Thuot continue à exercer une assez grande influence dans l'administration. Et il disait ceci, l'intégration, il ne parlait même pas d'assimilation, l'intégration mène des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi. Et il disait qu'il disait qui sera le meilleur commercial du pays replié sur sa ronchonne célébration du village d'autrefois ou de celui fier de ses visages contemporains, magnifiant une culture vivante et dynamique. Donc c'est l'apologie d'une société multiculturelle et la volonté qu'on ne se retourne pas sur le passé, d'ailleurs qu'il s'agisse du passé laïque, du passé chrétien, du passé historique, aucun passé ne vaut. Mais alors, j'en reviens quand même à la question qui se pose aujourd'hui. Alors, intégration, assimilation, présence de l'islam en France. Didier Leschi a proposé, et je voudrais savoir si vous êtes d'accord, voilà, il a proposé l'exemple napoléonien du Grand Sanhédrin. Rémi Braque dit, il y a une seule vraie religion, c'est le christianisme, puisque c'est la foi et rien d'autre. Et sinon, pour le reste, on peut dire que c'est la loi commune. Alors que le judaïsme, et a fortiori l'islam, c'est un système législatif complet. C'est un système de vie. Et en 1806-1807, on constatait que les préjugés anti-juifs étaient à nouveau très forts, accusations d'enrichissement par l'usure aux dépens des goyes, etc., etc., même acquisition des plaines rhénanes aux dépens des Français, et donc on a posé des questions aux autorités rabbiniques. Est-il licite aux juifs d'épouser plusieurs femmes? Le divorce est-il permis par la religion juive? Une juive peut-elle se marier avec un chrétien ou une chrétienne avec un juif? Aux yeux des juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers? Etc., etc. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine, plutôt que de réviser la loi de 1905, de faire un peu l'équivalent vis-à-vis de l'islam, notamment sur l'apostasie, sur la polygamie, sur un certain nombre de thèmes, pour obliger l'islam à clarifier sa position?
On peut imaginer que
Laurent Bouvet,
enfin, ça puisse être une solution qu'on peut comme ça faire scintiller, qui paraît. Je trouve que ce que dit Didier Leschi est toujours avec Didier Leschi très intéressant. Mais le problème, c'est que nous sommes en 2019 et nous avons en face de nous avec l'islam quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la religion, le judaïsme plus exactement, de l'époque. Nous avons, brosser rapidement les différences, Napoléon c'était un pouvoir qui n'était pas un pouvoir démocratique, qui reposait sur la volonté des individus et le vote éventuel de leur, au-delà du vote, leur expression démocratique. Nous sommes dans une crise profonde, c'est rien de le dire en ce moment, de la représentation. Donc comment et à quel moment les musulmans échapperaient-ils, et c'est tout le problème d'ailleurs de l'islam de France, au-delà de cette question du questionnaire napoléonien, comment les musulmans échapperaient plus que d'autres de nos concitoyens à cette question de la défiance vis-à-vis de toute institution représentative, et puis simplement à qui poser la question? C'est-à-dire que Napoléon pose la question aux autorités religieuses juives, reconnues par les juifs de l'époque. Et donc les autorités religieuses, les rabbins notamment, vont d'ailleurs répondre très habilement. C'est ce qui était très intéressant, c'est les réponses, parce qu'ils construisent toute une réponse pour permettre de garder l'essentiel, évidemment, de la religion, mais en adaptant ce qui est traditionnel dans la religion juive, des réponses pratiques, pragmatiques aux questions qui se posent au fur et à mesure. C'est toute l'histoire, évidemment, de la construction de cette discussion rabbinique. Donc là, on n'est pas du tout dans le même cas. Et qui sont les rabbins de la religion musulmane? Mais oui, mais les imams, ce sont des pasteurs de communautés locales qui n'ont pas la vérité, qui ne peuvent même pas discuter comme le font les rabbins, qui n'ont pas cette formation de discussion de leur propre religion. Ça n'a pas de sens.
Ma question s'adresse à tous les deux, parce que si effectivement,
ça n'a pas de sens.
L'islam, si j'ose dire, on considère que c'est comme les gilets jaunes, il n'y aura jamais d'instance représentative, donc on ne pourra jamais rien demander. Donc la méfiance va régner de part et d'autre, parce que une religion qui condamne à mort les apostats, c'est quelque chose qui ne va pas.
Mais c'est interdit par la loi.
Oui, alors il y a la loi. Mais enfin, il n'y a pas d'instance représentative, il y a des choses très claires à demander et à donner en exemple, justement, aux musulmans de France. Si on n'arrive pas à le faire, le fossé va se creuser et on peut penser que Gilles Kepel a raison de parler de fracture française. Philippe Reynaud.
Le problème, si vous voulez, c'est que ça fait un moment qu'on essaye de faire ce que vous dites. C'est-à-dire, moi, je dis dans mon livre qu'en fait, même si le couronnement de la laïcité française, c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État, il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, le Concordat a été le moyen de faire progresser la laïcité en France. Et ce qu'on voit bien, c'est que quand on traite l'islam, il y a toujours un moment où le ministre de l'Intérieur, ou le président de la République, ou le Premier ministre, ont ce qu'on pourrait appeler un moment consulaire et essayent de constituer des interlocuteurs avec une imitation plus ou moins consciente de ce qu'a fait Napoléon. Jusqu'ici, ça n'a jamais marché. Et notamment, les mieux disposés, comme Jean-Pierre Chevènement, ont tous vainement, ou Sarkozy, ont tous vainement essayé d'obtenir des autorités musulmanes cette idée claire qu'on a le droit de changer de religion. Jusqu'ici, me semble-t-il, ils n'arrivent pas à articuler cette chose aussi simple, pour des raisons qui sont peut-être respectables, mais simplement qui font qu'il est très difficile d'avoir un interlocuteur. D'autre part, il y a plusieurs islams, y compris en France, et ce que je connais de mes relations ou mes amis musulmans me disent, on va essayer de nous mettre un grand rabbin ou un archevêque de Canterbury qui, s'il est légitime auprès de certains, ne le sera pas auprès des autres. Donc il y aura des dissidences continuelles. Et d'autre part, à supposer que les imams soient mieux formés, il y a le fait aussi qu'il n'y a pas de tradition talmudique, qu'il n'y a pas le même rapport à l'interprétation, etc. Bref, la comparaison, si vous voulez, me paraît à la fois séduisante, mais la comparaison conduit plutôt à conclure que ça ne marchera pas. Alors, est-ce que pour autant il ne faut rien faire ? Non. Je pense qu'il faut créer les conditions de la civilisation politique en France. Il faut être ouvert à toutes les... Il faut pas être insultant avec les musulmans, avec l'islam. Il faut favoriser les gens qui sont les mieux, mais en tenant compte du fait que l'État laïque étant ce qu'il est, il peut pas être théologien. Donc on ne peut pas non plus, c'est ça le problème, on ne peut pas non plus dire ça c'est le bon islam, c'est le vrai, etc.
Non, l'État laïque n'est pas théologien, mais l'État laïque, l'État napoléonien n'était pas théologien non plus.
Oui,
il disait, voilà, il y a les lois de la République, est-ce que...
Oui, mais les lois de la République, c'était les lois du premier consul et de l'empereur, c'était quand même un peu différent. Quand même.
Oui, c'est vrai. Les lois... Oui, d'accord.
Et puis vous n'aviez pas le même rapport...
Il y avait encore du Bonaparte dans Napoléon.
Puis il n'y avait pas le même rapport démographique non plus. Aujourd'hui, nos concitoyens de culture ou de religion musulmane sont...
On
ne sait pas exactement les compter, mais enfin 6, 7, 8 millions peut-être. Et on a aujourd'hui des individus démocratiques. Donc la meilleure réponse pour moi, c'est pour ça que je pense que la meilleure réponse, c'est la laïcité. Pourquoi ? Parce qu'elle permet à un musulman, puisqu'on parle de l'islam, un concitoyen qui est de culture ou de religion, qui pratique ça, de la pratiquer comme il l'entend. C'est-à-dire que la laïcité le protège de ces coreligionnaires qui voudraient, c'est pas l'État qui voudrait qu'il pratique d'une certaine manière, désignant le bon ou le mauvais musulman, ça c'est clair. Donc, mais qu'il protège de ces coreligionnaires. Et si on devrait aller au bout de cette logique et protéger partout sur les territoires de manière égale pour tous les citoyens français et toutes les citoyennes en particulier, ceux qui veulent croire à leur manière, ceux qui veulent pratiquer à leur manière leur propre religion, sans être contraints par d'autres coreligionnaires de la pratiquer d'une manière, d'une certaine façon. C'est ça, lutter contre l'islamisme.
D'accord.
Et là, il s'agit d'appliquer la loi républicaine. D'appliquer nos principes. Ça peut être avec des outils de lutte contre la dérive sectaire, ça peut être des outils de lutte contre les trafics financiers, ça peut être l'application pleine et entière de la laïcité, ce qui n'est pas totalement fait pour les raisons qu'on a dites au début. Voilà, c'est ça la voie française.
D'accord, Laurent Beauvais. Mais vous citez l'un et l'autre l'affaire Babylou. Hein,
oui.
Une jeune femme voilée est renvoyée de cette crèche précisément parce que le voile est contraire au règlement intérieur. Il y a toutes sortes de procès. J'ai assisté à la dernière audience en appel. Eh bien, l'avocat de la jeune femme qui était voilée et qui portait plainte pour discrimination a dit, voilà, nous sommes à Champoux-les-Vignes et son exclusion est très problématique parce qu'elle a créé un trouble à l'ordre public. Voilà. Parce que les gens n'étaient pas contents dans la ville. Et ça, c'est-à-dire que là, on se retrouve dans des territoires particuliers où le rapport majorité-minorité s'inverse. Et ça crée vraiment des difficultés tout à fait saisissantes et tout à fait nouvelles. Et là, si, je veux dire, s'il n'y a pas d'instance représentative qui peut dire aux musulmans ce qu'ils ont le droit et pas le droit de faire, disons que pourra jouer contre l'application de la loi dans certains espaces une loi de la majorité défavorable à la République. Voilà, c'est la dernière question que je pose d'abord à Philippe Reynaud, puis à Laurent Bouvet. Mais très vite, parce que ça se termine.
Il faudrait nous dire quelle sera cette instance représentative, comment elle sera organisée, quelle sera son autorité. Pour l'instant, je ne suis pas certain qu'on ait des solutions praticables. Idéalement, il faudrait aller vers cela, bien sûr, mais en plus, depuis quelques années, on a favorisé au sein des organisations musulmanes, on a plutôt favorisé l'UOIF, ce qui n'était pas une très bonne idée de ceux qui l'ont
fait. Non, c'était les frères musulmans.
Oui, bien sûr, mais c'est ce qui a été fait.
C'est une loi d'airain. Quand quand vous voulez installer des représentants, ceux qui vont avoir le plus intérêt à être représentés, c'est ceux qui ont quelque chose à défendre. Et en l'occurrence et en l'espèce, ce ne sont pas, comme on le dit, les salafistes qui ne veulent pas se mêler d'organisations, de politiques, etc., qui veulent se séparer pour vivre leur foi fondamentaliste de leur côté. C'est l'islam politique, donc notamment les frères musulmans dans les différentes formes qu'ils prennent aujourd'hui, et notamment maintenant avec un islam turc extrêmement puissant et présent. Et donc vous allez avoir nécessairement une pression et l'arrivée de ceux qui ont quelque chose à dire à partir de leur religion dans l'espace public, dans le débat public, et à montrer quelque chose. Et donc il n'y a pas de solution en dehors. Dans le cas, par exemple, de Bébilou, de l'application de la loi. Mais Bébilou, il n'y avait pas une loi très claire sur, justement, le règlement intérieur des entreprises, parce que ce n'est pas la laïcité au sens strict de l'application du service public, etc. Donc, il y a eu des jurisprudences, et il y a eu une loi, depuis la loi El Khomri, sur la fameuse loi travail, où on a inséré la possibilité de mettre des restrictions dans les règlements intérieurs, et c'est une très bonne chose. C'est la loi qui nous permet de lutter contre les dérives identitaires des religions.
Voilà, et la loi qui permet de protéger les musulmans eux-mêmes contre la pression
de l'islam politique. Ce sont eux qu'on doit protéger.
Merci beaucoup Philippe Reynaud et Laurent Bouvet. Philippe Reynaud, vous avez publié La laïcité, histoire d'une singularité française, chez Gallimard. Laurent Bouvet, La nouvelle question laïque, Choisir la République, aux éditions Flammarion. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Actualité de l'antisémitisme. Mes invités seront Delphine Horvilleur et Danny Trom. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, d'Ali Yaya. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.